Bien, la semaine dernière, nous avions conclu eh bien, ce chapitre sur cette révélation spéciale en Jésus-Christ, le fait que Dieu se soit incarné pour communiquer qui il est, communiquer sa volonté également pour l'humanité. Mais ce soir, nous allons entamer un deuxième aspect de cette révélation si spéciale à travers la révélation écrite qu'est la Bible. Maintenant, je sais que beaucoup de gens aimeraient peut-être avoir une révélation spéciale, quelque chose d'extraordinaire qui se produise, quelque chose de miraculeux, quelque chose qui pour eux serait la preuve indubitable de l'existence de Dieu et que ainsi ils se plieraient à sa volonté. On a eu l'occasion, hein, dans les prédications sur le sujet, hein, des dons miraculeux, de montrer que même avec tout ce que Jésus avait accompli comme miracle, beaucoup ne croyaient pas. Que même s'il avait accompli ses miracles à Sidon, hein, et à Tyr, les personnes qui, d'origine païenne, hein, auraient vu ces miracles se seraient repenties bien plus que. Il disait ça par rapport à ceux en Israël qui voyaient tous les miracles qu'il accomplissait et pourtant rien ne pas de foi était suscité dans leur cœur. Mais ça nous amène à une question concernant la Bible. Et cette question, je crois que c'est plus pour nous, pour nous interpeller par rapport à la valeur que nous donnons aussi à la révélation écrite. La première question, c'est pensez-vous que vous prêteriez plus attention à si Dieu vous parlait du ciel directement ou par la voix d'un prophète vivant plus que ce que vous pouvez lire dans la Bible. Deuxième question, croiriez-vous ou obéiriez-vous plus facilement à ces paroles qu'à ce que dit la Bible? Pensez-vous que les réponses qu'on pourrait donner à ces questions-là seraient des réponses positive par rapport à la Bible ou négative. La révélation écrite est le choix, est le moyen par lequel que Dieu a choisi hein, pour communiquer avec l'humanité. Beaucoup pensent que ce n'est pas le meilleur moyen. Je crois que Dieu, il a envoyé tout ce qu'il avait, il a envoyé des prophètes, il a envoyé son fils, il a donné la parole écrite, et c'est extraordinaire tout ce que Dieu a déjà fait pour nous communiquer qu'il est là, qu'il existe, et quelle est sa volonté pour nous. On connaît tous ce verset de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors c'est un verset, des versets qui sont extrêmement importants parce qu'on aborde cette question de la doctrine de la Bible, hein, et de voir que la Bible dit beaucoup de choses d'elle-même, et on aura l'occasion de voir cela, hein, les affirmations de la Bible à son sujet. Mais avant d'aller plus loin, il nous faut comprendre que la manière la plus concrète hein, que Dieu ait choisie pour se révéler à nous, ça reste eh bien la Bible, ça reste cette transmission écrite qui englobe finalement toutes les autres formes de révélation, n'est-ce pas? Quand on a regardé à la création, la Bible nous parle de la création. Quand on regarde au fait que Dieu a parlé à des prophètes par des moyens tellement variés, hein, de manière directe, par des visions, par des songes, etc. Le fait que Jésus soit venu dans le monde, tout cela, c'est justement la Bible qui nous en parle. Et donc en cela, c'est vraiment le meilleur moyen hein, que Dieu nous a accordé pour connaître toutes ces choses que nous ne connaîtrions pas autrement, n'est-ce pas? Il a fallu que quelqu'un prenne le temps d'enregistrer toutes ces choses pour nous, pour que même des milliers d'années plus tard, nous savons ce qui s'est passé en Égypte avec le peuple d'Israël. Hein, nous savons comment Josué a pris Jéricho, etc. Bon, bref, toutes ces informations qui sont à notre disponibilité dans la Bible et qui nous parlent de Dieu, qui nous parlent de ses interactions avec l'humanité et de comment il a agi. Nous connaîtrions pas ces choses-là sans la Bible. En théologie, ce sujet porte le nom de bibliologie. Hein. Cette doctrine, non seulement elle atteste de l'origine divine de la Bible, mais elle explique également comment sa transmission et sa préservation s'est déroulée. Et c'est quelque chose qui est important pour nous chrétiens. Et je crois que ceux qui les détracteurs hein, du christianisme comprennent bien la chose que ben, pour démolir le christianisme, il faut démolir le fondement. Et le fondement que nous avons, c'est la Bible. Hein, une conception bancale au sujet de la doctrine de la bibliologie va engendrer immanquablement une détérioration ou une vision complètement fausse et déséquilibrée des autres doctrines que nous trouvons dans la Bible. Pourquoi? Bah, si on nie la source ou on atténue son autorité, eh bien ça ouvre hein, les possibilités de lui faire dire n'importe quoi déjà, hein, ou de dire ben ça c'est pas Dieu qui l'a dit ou ça on ne sait pas si c'est vraiment inspiré de Dieu, etc. Et juste une petite anecdote comme ça, je me rappelle ça de mes études à l'Institut biblique, un des professeurs qui avait employé cette illustration-là, et qui disait que voilà, c'était dans une église très libérale où on remettait justement en question l'autorité des Écritures, l'inspiration des Écritures. Et un jour, hein, le pasteur de cette assemblée, il est invité chez cette vieille dame, hein, qui est on va dire, quelque part, un des piliers de l'assemblée. Et dans la discussion, à un moment donné, bon, elle ouvre sa Bible et le pasteur constate que, eh bien, il y a des pages qui manquent ou il y a des trous dans les pages. Alors, il voyait bien que c'était pas parce que la Bible était trop usée ou quoi que ce soit, et il lui a demandé pourquoi sa Bible était dans cet état-là. Et la dame lui dit, oh, mais ça, pasteur, c'est à chaque fois que vous avez dit, ben, ça, c'est Jésus, il n'a pas dit ça, ou ça, c'est on doute que c'est dans la Bible, que ça vienne vraiment de Dieu. C'est une illustration peut-être assez exagérée hein, de ce qui se passe dans le monde chrétien, concernant la Bible. Mais on comprend bien que si on enlève ce fondement-là, qu'est-ce qui reste? Sur quoi baser notre foi et la vie que nous devons mener. La Bible, elle contient tout ce que l'on a besoin de savoir au sujet de Dieu, au sujet de la condition humaine, n'est-ce pas? Et je sais que parmi les questions qui sont les plus fréquentes, hein, les questions auxquelles la bibliologie apporte des réponses, on a ces questions assez courantes. Hein, la Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Et on va voir ces choses-là, hein, Dieu voulant, dans notre étude. Que signifie le fait que la Bible est inspirée? Hein, y a-t-il des preuves dans l'inspiration de la Bible? Comment sait-on hein, quels écrits devaient être incorporés dans la Bible? La Bible contient-elle des erreurs, des contradictions, des divergences? Et aussi la question, pourquoi est-ce qu'il existe autant de versions différentes? Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même qu'on définisse certains termes, des définitions qui sont essentielles pour nous de bien comprendre. D'abord, la révélation, c'est quoi? On a déjà beaucoup parlé de révélation. Hein, mais la révélation, c'est l'acte par lequel Dieu nous fait connaître eh bien, des vérités qui seraient restées en dehors de notre perception autrement. C'est-à-dire que beaucoup de choses, pendant des siècles, sont restées des mystères pour l'humanité. Et à chaque fois que Dieu s'est révélé, que ce soit bon, un prophète ou un roi ou ce que vous voulez, Dieu a révélé quelque chose que l'être humain ne connaissait pas, soit à son sujet, hein, au sujet de Dieu, soit au sujet même hein, de l'humanité et de la vie de ces personnes-là. Donc, le terme de révélation désigne effectivement tant le processus hein, par lequel Dieu s'est révélé, mais aussi le résultat, hein, le résultat final de cette révélation. L'inspiration, il s'agit ici de l'enregistrement, hein, de la vérité révélée par Dieu. Les Écritures ont été inspirées de manière plénière et verbale, et elles ont été insufflées, hein, de Dieu, et on développera là-dessus, un peu plus tard également. Donc on sait que Dieu, quand il s'est révélé à l'être humain, et que l'être humain a commencé à écrire ce que nous avons aujourd'hui hein, comme la Bible, c'est l'Esprit de Dieu hein, qui a poussé, qui a insufflé, qui a inspiré ces personnes à écrire. Un autre terme important, c'est celui de l'inhérence. L'inhérence, c'est quoi? C'est le fait que les Écritures saintes ont été révélées par Dieu à l'être humain sans erreur et sont donc infaillibles. D'accord? Quand Dieu s'est révélé à l'être humain, il n'y avait pas d'erreur dans ce qu'il disait. Okay? Et donc ça, c'est les choses importantes de comprendre que les Écritures sont sans erreur dans leur langue originale, hein, dans les textes originaux. Elles sont sans erreur tant sur le plan spirituel que même dans les éléments historiques, dans les éléments géographiques. Et même, et ça pourrait faire hérisser les poils de beaucoup, même sur le plan scientifique. La Bible est certes un ouvrage unique. C'est un ouvrage unique. Hein, elle est fondamentalement différente de tous les autres ouvrages anciens et de tous les ouvrages religieux qui existent. Un linguiste du nom de Montero Williams, qui était professeur de sanskrit, une langue sacrée de l'Inde, s'exprimait ainsi après avoir étudié pendant 42 ans les livres orientaux. Il dit, empilez tous ces livres, hein, tous les livres religieux, orientaux, etc. Empilez à la gauche de votre bureau. Placez la Bible seule à votre droite en aménageant le plus grand espace possible entre les deux, parce qu'en effet, un grand abîme sépare la Bible des livres dits sacrés de l'Orient. Et c'est une séparation totale, définitive, éternelle, une distance infinie qui ne peut être franchie par aucune science ni aucune religion. William Farquhar Albright, un archéologue, professeur américain, connu pour ses fouilles hein, des sites bibliques entre 1891 et 1971, il a dit ceci: la Bible domine par son contenu toute la littérature religieuse antérieure. Et elle domine tout aussi impressionnante la littérature ultérieure par la simplicité directe de son message. Et la catholicité dans le sens universel, hein, l'universalité de son appel aux hommes de tous les pays et de toutes les époques. Parce que la Bible n'a pas été écrite juste pour un peuple, n'a pas été écrite juste pour une période, mais elle a été écrite pour toute l'humanité. Et donc la Bible est un ouvrage unique et il y a plusieurs éléments hein, qui nous montrent en quoi elle est unique. D'abord, elle est unique de par son origine. Outre le fait que la Bible affirme une origine divine, la Bible, elle a été transcrite et rédigée sur une période de plus de 15 siècles par plus de 40 auteurs de milieux très différents et qui, pour la plupart, hein, ne se connaissaient pas. Certains étaient contemporains, mais la plupart ne se connaissaient pas. Et pourtant, quand on regarde, quand on lit la Bible dans son ensemble, on trouve qu'il y a une cohérence, il y a une unité dans ce qui a été écrit sur eh bien, plusieurs siècles, il y a une continuité, une cohérence, une unité. Outre les années et les siècles qui séparaient certains d'entre eux, les auteurs bibliques étaient bien différents les uns des autres également. Hein, leurs arrière-plans sociaux étaient très différents. Hein, il y avait des juifs, il y avait des non-juifs qui ont écrit la Bible. Il y avait des fermiers, il y avait des pêcheurs, il y avait des nobles, des philosophes, des religieux, médecins. Certains même sont connus, on sait qui a écrit certains des livres, on ne connaît pas l'auteur. Certains de ces auteurs sont inconnus. Retenons également que les écrits ont été rédigés dans des lieux géographiques bien différents. Hein, certains ont été écrits dans les déserts, dans des prisons, parfois en plein air, dans un palais, hein, parfois lors de voyages. Ils ont été rédigés par des hommes qui se trouvaient même dans des états émotionnels très différents. Hein, lisez le livre des psaumes, c'est un livre rempli d'émotions. Lisez l'épître aux Romains, on va trouver des émotions, mais c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Elles ont été, ces ouvrages, ces livres ont été rédigés également à différentes périodes, hein, époques, des périodes de guerre, hein, de souffrance, ou des périodes de paix et de prospérité. La Bible, elle a été également rédigée sur trois continents différents, hein, l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Elle a été écrite en trois langues différentes, l'hébreu, hein, l'araméen et le grec. Et donc, c'est tous ces éléments-là, hein, la manière dont la Bible s'est constituée progressivement et le fait que, il y ait une telle diversité d'auteurs, hein, et même de lieux géographiques, on peut même dire de culture, hein, pour certains des livres, on retrouve quand même quelque chose de bien cohérent et uni. Et c'est cela qu'il faut souligner. La Bible est un ouvrage unique de par son unité. Comme j'ai dit, hein, la Bible, c'est une bibliothèque. Hein, c'est une bibliothèque contenant des livres qui ont été transcrits par une quarantaine de personnes. Et on peut se poser la question, comment est-ce que c'est possible que des auteurs aussi nombreux, issus de tant de générations différentes, de cultures, d'horizons si divers, et pour la plupart sans moyen de communication entre eux, aient pu écrire en parfaite harmonie, une œuvre si parfaitement homogène. Alors que les sujets qui sont traités dedans sont ceux qui soulèvent généralement des batailles d'opinion hein, sur le cosmos, l'univers, sur la nature, la philosophie, Dieu, son existence, la condition humaine hein, qui est l'homme, la relation qu'il peut y avoir entre eux, toutes ces choses-là. Je veux dire, si on avait des discussions hein, avec des personnes dans la rue, au sujet de Dieu, on aurait des avis bien différents, n'est-ce pas? Mais là, on retrouve des personnes qui ont écrit au sujet de Dieu et tout coïncide, tout colle, tout va ensemble. La Bible est également un ouvrage unique de par son actualité, son contenu. Hein, beaucoup de gens disent, oh, la Bible, c'est un livre ancien, ça n'a rien à nous dire pour aujourd'hui. Et pourtant, c'est bien le contraire. La Bible parle de qui est l'être humain. Elle cerne, je veux dire, de la façon la meilleure possible, elle cerne qui est l'être humain et pourquoi il agit ainsi, pourquoi il y a la souffrance dans le monde, etc. Il y a des milliers de livres qui tombent dans l'oubli, qui sont écrits et qui sont vite oubliés. Parfois même en quelques années. On pourrait dire la même chose même par rapport à des films. Hein. Il y a énormément de films qui ont été faits hein, depuis l'invention du cinéma. Et pourtant, il y en a énormément qui sont complètement, mais alors complètement oubliés. En quoi donc la Bible reste-t-elle si actuelle alors que certaines de ses parties comptent parmi les écrits les plus anciens de l'humanité? C'est une question importante. Comment ça se fait que, à travers le monde, nous trouvions des gens qui trouvent une grande pertinence aux écrits de la Bible au XXIe siècle. Hein, avec tous les progrès scientifiques et techniques, hein, cela n'a pas atténué le désir, la faim et la soif hein, que les gens ont pour la Bible, bien au contraire. Alors qu'on a des enfants qui comprennent eux-mêmes le message de la Bible, qui apprécient hein, les récits qui sont dans la Bible, les enseignements, on a également des savants, des érudits qui, de tout temps, admirent la profondeur de la pensée biblique. Certes, il y a beaucoup de critiques, mais beaucoup hein, ont regardé à la Bible comme étant un livre unique. Et encore aujourd'hui, hein, ce sont des millions de personnes qui se nourrissent de ce livre, qui trouvent le sens de leur vie, qui trouvent l'aide, qui trouvent le soutien, qui trouvent l'encouragement dont ils ont besoin pour leur vie. Elle a été écrite également dans une grande variété de styles littéraires. On retrouve de la poésie, on retrouve des récits historiques, on retrouve des chansons, des livres d'instruction, d'éducation, des lettres personnelles, hein, des mémoires, des biographies, autobiographies, hein, des textes législatifs, des prophéties, des paraboles. C'est pour ça qu'on parle de vraiment une bibliothèque, parce qu'on trouve toutes sortes d'ouvrages dans la Bible. Et la Bible est également unique de par sa diffusion. Elle pulvérise tous les records de traduction et d'édition diverses. Elle est l'un des premiers livres à avoir même été traduit, hein, le premier à avoir été édité par Gutenberg. Hein, pour ceux qui le savent, hein, l'Ancien Testament lui-même avait été traduit par des érudits juifs qui vivaient à Alexandrie au 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ. Hein, c'est la version des Septante, hein, qui a été traduite de l'hébreu en grec. Ça remonte à des siècles et des siècles, n'est-ce pas? La dernière vente, même d'une Bible complète de Gutenberg, a eu lieu en 1978 pour la somme de 2,2 millions de dollars. Probablement la Bible la plus chère. Hein. Le prix d'une copie intégrale est aujourd'hui estimé à entre 25 et 35 millions de dollars pour ces ouvrages, pour ces impressions anciennes de la Bible. Ce sont plus de 600 millions de Bibles ou parties de la Bible qui ont été éditées, publiées et distribuées jusqu'à ce jour. La Bible est également un ouvrage unique de par l'histoire de sa transmission. Il faut bien comprendre que la Bible a été transmise pendant plus d'un millénaire sans l'aide de l'imprimerie. Aujourd'hui, on enregistre en vidéo, en audio, on enregistre sur les ordinateurs, on met ça sur Internet et ce sont des milliards de personnes à travers le monde qui peuvent accéder, etc. Mais pensez-y que ces ouvrages-là ont plusieurs millénaires. Et on les a là, en notre possession. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce que les supports qui étaient employés étaient des supports qui étaient fragiles. Hein, les papyrus, les parchemins, beaucoup hein, de ces manuscrits que nous avons aujourd'hui, certains de ces manuscrits sont des pièces, des morceaux, parce que ces supports sont très fragiles. Mais ce qui est remarquable, c'est que pour les manuscrits de la Bible, la quantité de ces manuscrits dépasse toutes les œuvres de l'Antiquité. Et on verra un peu plus ces choses, hein, en détail plus loin dans notre étude. La Bible fut également transmise et conservée malgré les innombrables tentatives de destruction. Hein, la Bible, elle est unique non seulement parce qu'elle nous a été transmise, elle a été préservée pendant plus d'un millénaire sans l'aide de l'imprimerie, mais parce qu'elle a aussi survécu à de nombreuses attaques. Et ce qui est pour moi folie, c'est que même ceux qui se disaient chrétiens étaient parmi ceux qui ont cherché à détruire la Bible. Bon, dès le départ. Bon, départ, quelques siècles après Jésus-Christ, hein, l'empereur romain Dioclétien, en l'an 303 de notre ère, a décrété l'extermination de tous les chrétiens, la destruction de toutes les écritures qu'ils possédaient. Alors, c'était une des persécutions, des attaques les plus terribles hein, qui ont été dirigées contre la Bible, contre les chrétiens. Ce sont des centaines de milliers de chrétiens qui sont morts, exécutés. Et c'est vrai que presque tous les manuscrits hein, avaient été détruits. Mais malgré toutes ces tentatives, hein, les aléas de l'histoire firent que 22 ans plus tard, hein, lors du premier concile général, ce soit un autre empereur romain, Constantin, qui va reconnaître l'autorité infaillible de la Bible. Au Moyen Âge, on sait que l'Église catholique a maintenu les gens dans l'ignorance par rapport à la Bible. Déjà en employant une Bible dans une langue qui n'était pas la langue du peuple, en maintenant les choses en latin, seule une élite pouvait posséder une Bible, lire la Bible, comprendre la Bible. Hein, et il faut se mettre aussi à l'esprit que même lorsque Martin Luther a entamé ce processus de ce qu'on appelle la réforme protestante, lui-même, ce n'est qu'à l'âge adulte qu'il a pu posséder une Bible et commencer à la lire et l'étudier. Pendant des siècles, l'Église catholique a persécuté ceux qui étudiaient la Bible, ceux qui cherchaient à comprendre le sens, qui proclamaient le véritable message de l'Évangile. Il y a eu des décrets, des conciles, des menaces d'excommunication qui ont été prononcées par les papes. On a des exemplaires de traductions de la Bible qui ont été publiquement détruits par le feu, par l'Église catholique. Quant aux lecteurs de la Bible, eux-mêmes étaient condamnés, torturés, brûlés vifs par les inquisiteurs. Une situation qui Bien sûr, c'est modifié, hein, fort heureusement, avec la réforme protestante par la suite. Mais on sait que, voilà, malgré, encore une fois, tous les efforts qui ont été faits, que ce soit par des gouvernements ou des religions, pour détruire la Bible, n'y sont pas parvenus. Alors, il y a également, et on finira peut-être avec ça ce soir, mais cette illustration, elle est extraordinaire. Et je sais qu'il y en a qui disent oui, c'est pas vrai, mais il y a une personne qui a vraiment recherché la chose et qui a pu attester que c'est bien produit comme ça. Mais Voltaire, on connaît bien le philosophe français Voltaire. En 1778, il prétendait qu'il ne faudrait pas plus d'un siècle pour qu'on ne trouve la Bible que dans des boutiques d'antiquaires. C'est-à-dire que pour lui, hein, la raison humaine allait mettre un terme, hein, selon leur point de vue, à la supercherie des religions, etc. 26 ans plus tard, hein, une des premières sociétés bibliques a été fondée. Hein, elle avait pour objectif la diffusion mondiale de la Bible pour un prix raisonnable pour tous. La maison, hein, où Voltaire a résidé à Genève, en Suisse, a servi de stockage pour ces Bibles. Okay. Et je sais que, bon, il y en a qui vont dire, oh, c'est une coïncidence. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, Dieu qui fait, ha! Et dès lors, les Saintes Écritures n'ont cessé de se répandre à l'archive de diffusion dont on a déjà parlé il y a quelques instants. C'est l'ouvrage qui a été le plus largement diffusé à travers le monde. Et même malgré ses détracteurs, les Saintes Écritures demeurent aussi inébranlables qu'un rocher et se répandent toujours davantage. Elle est traduite encore aujourd'hui dans des langues et il y a tout un travail qui est fait pour que le message de la Bible puisse parvenir à toutes les personnes sur cette terre, tous ceux qui cherchent la réponse à leurs questions concernant Dieu, ceux qui cherchent la vérité. Donc, Dieu voulant, la prochaine fois, nous aborderons le grand point C, la Bible, un ouvrage divin ou un ouvrage humain. Autrement dit, est-ce que c'est une œuvre de fiction ou est-ce que c'est vraiment la vérité qui vient de Dieu?